Avec ce cycle « Démocratie fragilisée » que nous organisons à l'occasion du 70e anniversaire de la maison Heinrich Heine, nous souhaitons mettre en lumière les multiples défis auxquels les sociétés démocratiques sont actuellement confrontées. L'érosion de la confiance dans les institutions politiques, la polarisation des débats publics, la montée des mouvements autoritaires et la question de savoir comment préserver la cohésion sociale dans ces conditions. Après nos entretiens avec les historiens Gozzali et Jean Chapoutot, qui se sont penchés sur les conditions historiques des crises démocratiques et des évolutions autoritaires, nous abordons aujourd'hui une autre question, non moins fondamentale, de quelles conditions sociales et morales une démocratie a-t-elle besoin pour rester vivante et résiliente à long terme? Pour cette discussion, nous avons le plaisir d'accueillir l'un des plus éminents philosophes sociaux de notre époque, le directeur de longue date de l'Institut de recherche sociale de Francfort-sur-le-Main. Axel Honneth est inscrit dans la tradition de l'école de Francfort et a été marqué de manière déterminante et durable et a marqué de manière déterminante et durable le débat politique et philosophique bien au-delà des frontières de l'Allemagne grâce à sa théorie de la reconnaissance. C'est un grand honneur que vous soyez ici. En ces jours où nous faisons nos adieux au grand Jürgen Habermas, dans l'œuvre accompagner le processus de réflexion démocratique de l'Europe pendant les décennies. Et la rencontre aujourd'hui avec Axel Honneth revêt donc d'une résonance particulière. Au cours d'un entretien avec Michaela Wiegel, correspondante de la FATS à Paris, qui nous accompagne depuis le début de ce cycle, il explorera le rôle que jouent les expériences de reconnaissance et de mépris dans la cohésion sociale et comment les tensions démocratiques actuelles peuvent être comprises dans le contexte de profonds changements sociaux et économiques. Face à une aliénation politique croissante, la question se pose de savoir si la crise de la démocratie n'est pas également liée à une crise du monde, du travail et de l'intégration sociale. Cher Axel Honneth, nous vous remercions très sincèrement d'être parmi nous ce soir. Votre présence est un honneur tout particulier pour notre établissement. Je tiens à remercier tout particulièrement encore une fois Madame Wiegel, qui accompagne ce cycle avec une grande compétence et un engagement remarquable. Je remercie également nos partenaires, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, ainsi que l'Institut historique allemand, le Deutsches Historisches Institut à Paris. Nous remercions tout particulièrement le Fonds citoyen franco-allemand pour son généreux soutien au projet qui favorise les échanges démocratiques et la compréhension européenne. Je remercie également nos traductrices, Gabriele Venema et Pascal Paltov, pour leur précieux travail sans lequel cette rencontre et ce dialogue ne seraient pas possibles. Enfin, je vous remercie tous pour votre présence, votre intérêt et votre fidélité à ce cycle d'événements. Je tiens d'ores et déjà à attirer votre attention sur la dernière soirée de notre cycle. Le 2 juillet, nous accueillerons la philosophe Corinne Peluchon, qui est d'ailleurs également présente ce soir, et je tiens à l'en remercier, et avec laquelle nous poursuivrons la réflexion sur l'avenir des sociétés démocratiques. Je la remercie. Je vous souhaite une soirée stimulante et cède maintenant la parole à nos invités. Et si vous avez besoin de la traduction, n'hésitez pas, dans 10 minutes, nos collègues vont distribuer d'autres casques. Merci beaucoup.
Bonsoir et merci.
Moi aussi, je vais maintenant parler en allemand en espérant que Guten Abend, vous allez le comprendre de toute façon. Et tout à l'heure, vous aurez donc d'autres écouteurs. Je me joins à Madame Humphries pour tous ces remerciements. Mais je dois ajouter mes remerciements à la directrice de la maison Heinrich Heine, Madame Humphries, qui a rendu ces rencontres possibles. Et c'est elle qui a organisé donc ce cycle remarquable. La démocratie libérale traverse une crise mondiale. Lors des précédentes rencontres de ce cycle, nous avons examiné de près les signes de déclin de la démocratie, notamment à la fin de la République de Weimar. Et nous avons tenté d'en tirer des enseignements pour le présent, ceux et celles parmi nous qui étaient présents pour les deux rencontre, vous avez pu entendre que Gottali et Johann Chapoutetto n'ont pas tiré les mêmes conclusions. À cet écart, l'approche de l'historien Gottali s'est révélée particulièrement éclairante. Il a décrit en détail à quel point Hitler a transformé la situation socio-économique grâce à une politique de redistribution généreuse et s'est en quelque sorte acheté le soutien de la population. En 2023, vous avez publié le livre « Der Arbeitende Souverain, qui existe aussi en traduction française, « Le souverain laborieux », paru en version française chez Gallimard. Récemment, dans une nécrologie de Jürgen Habermas publiée dans la FAZ, vous avez écrit que la tradition intellectuelle de l'école de Francfort, dont Habermas incarnait l'esprit comme nul autre, et vous aussi, j'imagine, que cette tradition avait probablement pris fin. Vous avez vous-même dirigé l'Institut de recherche sociale de Francfort pendant longtemps, et dans cette nécrologie, vous écrivez une phrase qui m'a impressionnée et m'a fait réfléchir que Habermas n'aurait pas voulu assister à la destruction de ses espoirs d'une Europe démocratique. Et vous poursuivez que vous vous dites orphelin du père. Dans Le souverain laborieux, vous observez que les mouvements populistes de droite se renforcent parce qu'une grande partie de la population ne se sent plus impliquée dans le processus de formation de la volonté démocratique. Selon vous, ce sentiment est avant tout imputable au monde du travail. Les partis du centre auraient négligé de manière coupable le monde du travail. De très nombreux salariés n'auraient plus le sentiment que l'actualité politique a une influence sur leur vie quotidienne au travail. Ils se sentiraient privés de leur droit de regard sur la manière dont le travail est organisé de manière sensée et sur la question de savoir à qui il doit finalement servir ou profiter. Ils réclament une nouvelle politique du travail, des relations de travail plus démocratiques et l'implication des salariés dans l'organisation de l'entreprise. Dans un texte publié dans la revue Mercure, intitulé « Le point de vue du progrès humain », vous posez la question de savoir si l'on peut encore croire en un monde meilleur à l'avenir, malgré les tendances à la régression de la période récente. Question tout de suite. Assistons-nous à une régression ou bien se pourrait-il que les mouvements populistes de droite, mais aussi de gauche, aient vu le jour justement parce que les forces de correction dans les partis établis ont diminué et sont devenues très faibles.
Merci beaucoup. Merci, Madame Wieg, Madame Humphries, pour cette invitation. Merci pour toutes les questions que vous allez m'adresser. Je suis heureux d'être ici parmi vous et je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. Cette question, elle est extrêmement complexe. Bien entendu, j'aurais tendance à dire que nous trouvons dans une phase historique marquée par la régression. Mais il faut expliquer pourquoi on se sent ici en mesure de parler de régression. Je vais peut-être faire la différence entre trois mouvements populistes actuels qui sont tous assez régressifs, mais qui ont également une fonction de correction, une capacité à apporter des correctifs. On ne peut pas d'emblée condamner l'ensemble du populisme. Dans certaines régions d'Europe et aux États-Unis, chez l'école blanc, on parle plus tellement de travailleurs, mais chez les employés, chez les travailleurs, il y a effectivement ce sentiment d'être trompé. Et je crois que c'est une réaction liée au néolibéralisme. Il y a une forte déception, une déception parce qu'on a l'impression que son travail, sa performance n'est pas valorisée quand on regarde le fossé qui se creuse entre pauvres et riches. Ce fossé ne cesse de se creuser. on ne cesse de le lire au quotidien, dans la presse, on voit à quel point les écarts se sont creusés. Et à mon sens, c'est lié au fait qu'il s'agit de gens qui travaillent toute leur vie et qu'ils aient 40 ou 60 ans, ils n'ont plus l'impression que ça sert à quelque chose de travailler. Les loyers sont élevés, l'inflation augmente, le coût de la vie lui aussi ne cesse d'augmenter. Et il y a un groupe de personnes de 10-15% qui ne cessent de gagner plus d'argent en investissant en bourse. Donc là, il y a une sorte de contre-mouvement qui, à mon sens, assume une fonction tout à fait justifiée. Je crois que là, effectivement, il y a une rébellion justifiée contre les riches, mais cela montre que dans l'évolution néolibérale des 30-40 dernières années, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. En matière fiscale, par exemple, et il y a également une redistribution qui est totalement inégalitaire. L'emploi est de moins en moins sûr, de moins en moins bien rémunéré. Il y a une précarisation croissante dans le secteur des services, etc. Donc ça, c'est un de ces mouvements. J'en viens maintenant à un second mouvement. Alors ensuite, ils se mélangent, mais il faut quand même pouvoir les distinguer. C'est une réaction au fait que les gens, sur le plan culturel, sont dépassés. On a l'impression, en effet, que toutes ces évolutions culturelle. Alors du queer jusqu'à la politique linguistique en matière de langage, tout ça, ça va trop vite. On n'arrive plus à garder le rythme. On nous impose une sorte d'adaptation culturelle, mais que nous n'avons pas encore pu intérioriser. Ce sont par exemple les débats sur la modification des noms de rue, ou alors tout simplement le fait que l'on veut déboulonner certains mémorials. Et puis il y a toute cette politique du langage féministe au queer. Tout ça est certes justifié et peut se comprendre, mais peut-être qu'en matière de communication, on n'a pas suffisamment bien expliqué les choses. Pourquoi une petite minorité culturelle, nous, les libéraux de gauche, les sociolibéraux, pourquoi nous pensons que c'est juste? On ne l'a pas bien expliqué, la communication n'a pas bien fonctionné. Donc il y a une sorte de mouvement de contre-révolution culturelle. On le constate partout, certainement aux États-Unis le plus fortement, mais ça existe en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, où que l'on regarde. Donc ça, c'est un deuxième mouvement. Et puis troisièmement, il y a ce sentiment d'aliénation. Ça, c'est la réaction à une politique de migration libérale. Alors, pour des raisons économiques, entre autres. Et les gens ont l'impression qu'on leur prend ce qui leur revient, qu'on leur prend des choses, alors que ces personnes à qui on donne n'ont pas contribué et que c'est à eux qu'on vient prendre. Donc, c'est une réaction à la mondialisation, une réaction au néolibéralisme et une réaction aux réformes culturelles et à l'intégration de l'autre et d'autrui dans notre processus d'intégration, dans notre processus démocratique, pardon. Alors, j'en viens à votre question sur les correctifs. Alors, le marché capitaliste n'est absolument plus contrôlé. Il n'est plus du tout intégré dans un cadre social, l'état-providence est menacé. Les emplois ne sont plus garantis comme ils étaient il y a 50 ans. Et donc, le droit de regard ou le droit de codécision, tout cela, c'est en recul. Donc, tout ça, ce sont des expériences qui mènent à cette réaction, à savoir parce que la démocratie n'a pas de base sociale. Il lui manque ce socle social à la démocratie, ce qui mène à un sentiment d'exclusion. On n'a plus l'impression qu'on est impliqué dans cette démocratie parce que, dans son rôle social en tant que travailleur, qu'employé, on ne se sent plus reconnu, valorisé. Et cela vaut tout particulièrement pour l'Allemagne, je suppose également pour la France, d'autres pays et surtout aussi le Royaume-Uni. Le parti travailliste là-bas n'arrive plus à défendre les intérêts des travailleurs, donc leurs partisans qui étaient surtout les travailleurs blancs. Pour rebondir là-dessus, vous venez de le dire, les partis qui n'arrivent plus à s'adresser en fait au monde du travail, au monde des travailleurs. Avec Johan Chapoutou, nous avons abordé le concept d'ultracentre. Donc l'ultracentre, c'est un phénomène qui était typique de la République de Weimar, à savoir que le centre se réduisait comme peau de chagrin, mais pour autant prétendait être un acteur qui s'exprimait au nom de l'ensemble de la société. Est-ce que vous voyez là un parallèle aussi? D'un côté, on a le sentiment, l'Allemagne, il a le grand gouvernement de coalition, en France, un gouvernement minoritaire qui est appuyé par un grand éventail de partis. Mais on a l'impression que même si ce centre est très vaste, beaucoup de gens ne se retrouvent plus dans ce centre. Donc, est-ce que, à votre sens, c'est lié à cela ou est-ce que c'est juste un phénomène d'un monde du travail en pleine mutation? Ce serait réducteur de dire que ça n'est que le résultat d'un monde du travail en rapide mutation. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte ici. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire que c'est là un grand échec des partis politiques, mais force est de constater qu'il y a un tel phénomène qui existe en Allemagne, mais qui existe aussi à l'échelle européenne. Il y a certainement là l'échec de la social-démocratie. La social-démocratie qui actuellement n'est plus en mesure de défendre et représenter les intérêts des travailleurs, des travailleuses. Alors il faudrait réfléchir à la raison de savoir pourquoi ça vaut pour les socialistes en France, pour le Labour en Allemagne, pour les sociaux-démocrates en Angleterre, pour les sociaux-démocrates en Allemagne. Pourquoi ils n'arrivent pas à mettre sur pied un programme qui est capable de recueillir une majorité et qui permettrait de reconquérir les travailleurs en Allemagne, en France, au Royaume-Uni? Et c'est là que c'est certainement très inquiétant. On voit que de plus en plus, le monde ouvrier, les travailleurs ont tendance à se reconnaître dans les partis de droite. Alors encore une fois, on peut certainement voir cela comme un échec de la social-démocratie, mais on peut peut-être y voir aussi un basculement des intérêts pour les travailleurs. Il ne s'agit plus du vieux prolétariat industriel, il s'agit en fait d'un monde du travail qui est très axé sur les services. Et les intérêts de ces personnes ont changé et les anciens partis ouvriers n'ont jamais suffisamment réagi. Ou alors leur propre clientèle est en fait trop diffuse, couvre trop de segments et de domaines pour qu'un parti arrive en fait à représenter les intérêts de tous en un seul programme. Le centre se réduit comme peau de chagrin, mais ce n'est pas comparable à la République de Weimar. Dans la République de Weimar, ce centre diminuait tellement parce qu'il y avait une radicalisation vers la gauche et vers la droite. À l'heure actuelle, on ne constate pas de radicalisation à gauche, du moins pas à grande échelle. Certes, le parti de la gauche en Allemagne a remporté un petit peu plus de voix les derniers temps, mais ça reste limité. Le parti de la gauche n'est pas un parti radical comme l'était le parti communiste dans la République de Weimar ou l'USPD. C'était les grands partis à l'époque vers lesquels les masses de gauche se précipitaient. Donc ça n'est à mon sens en rien comparable avec la République de Weimar. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui se reconnaissent dans le populisme de droite. Il y a différentes branches ici, l'ethno-nationalisme. Alors ce sont ceux qui réagissent à la mondialisation, tout ce que j'ai déjà dit, l'aliénation, trop de dictatures culturelles, trop de choses qui sont imposées. Le centre, en fait, diminue parce qu'il y a tant de personnes qui se déplacent vers la droite. Et le monde ouvrier ne sait plus où se retrouver et le centre ne sait plus non plus à qui s'adresser. Alors, c'est vrai qu'en France, l'évolution est assez différente parce que l'un des grands problèmes des socialistes, c'est l'existence de la France insoumise, comme on veut la qualifier politiquement. C'est une autre question, mais c'est quand même une force dominante sur l'échiquier politique. Et donc, il y a quand même cet effet sandwich. Pour rebondir là-dessus, j'aurais une autre question à vous poser. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe? J'ai cité tout à l'heure ce que vous aviez écrit, à savoir que Jürgen Habermas ne pouvait plus supporter la destruction de cet idéal européen. Et vous-même, vous posez cette question, vous dites, est-ce que l'on peut encore être optimiste, croire en le progrès vu l'évolution que nous connaissons actuellement? Peut-être que vous pouvez essayer de diriger le regard vers l'Europe, parce que ça a toujours été de pair, surtout après la chute du mur. Là, on pensait que la démocratie libérale était arrivée à son zénith et que cela correspondait à ce vers quoi tous aspiraient. L'Europe, ou plutôt l'Union européenne, est extrêmement fragmentée pour différentes raisons désormais. Et Habermas avait certainement de bonnes raisons de ne plus être très optimiste sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel. Elle est totalement fragmentée, divisée. Elle est divisée sur le plan économique, car l'Union européenne hégémonique est plutôt une Union européenne néolibérale qui mise pas suffisamment sur l'État social et qui n'a pas déployé beaucoup d'efforts pour créer véritablement une Europe sociale, ce qui entraîne énormément de déceptions et de frustrations. Également dans beaucoup d'États membres de l'Union européenne. Sur le plan politique, elle est divisée également parce qu'elle est confrontée sur tant de fronts à des évolutions inattendues. Alors, il y a bien entendu la situation absolument catastrophique en Ukraine avec la guerre qui est menée par la Russie contre l'Ukraine, mais l'Union européenne est aussi confrontée à la situation en Israël et en Palestine. Nous le savons. Il y a là d'énormes tensions en Europe. Pensons par exemple à l'approche de l'Allemagne, à l'attitude de l'Allemagne avec cette raison d'État qui fait qu'il y a ce soutien conditionnel à Israël. Et puis pensons à l'Espagne, très pro-palestinienne et qui a de bonnes raisons de reprocher à Israël de commettre un génocide. L'Allemagne se tient à l'extérieur de cela. La France a une position médiane. Alors il y a là des tensions politiques comme nous ne les avons jamais connues en Europe au cours des 40-50 dernières années. Puis ensuite, il y a des tensions culturelles qui nous sautent aux yeux quand on pense à Giorgia Meloni ou quand on pense à l'Espagne. D'un côté, il y a des mouvements qui s'engage clairement pour l'intégration de l'autre, d'autrui, de l'étranger, qui s'engage pour une ouverture culturelle, pour une prise en compte des minorités, pour une politique linguistique adaptée. Et on a un contre-mouvement représenté par Giorgia Meloni. C'est cela, donc, cette tension en Europe, on a des tensions sur tous les fronts et à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Est-ce que ces forces qui seront en mesure de surmonter ces tensions pourront se régénérer? Je n'en sais rien. Le gouvernement allemand fait preuve de très peu de souplesse en la matière. La France a un président très néolibéral sur le plan économique, mais bien entendu très pro-européen. Et puis, il y a la situation difficile avec le Royaume-Uni. On ne sait pas si le Royaume-Uni, dans 5 ans, sera encore le Royaume-Uni qui actuellement se montre quand même très tourné vers l'Europe de nouveau, ou si ce sera un pays plutôt dominé par la droite radicale. C'était ça la crainte, je crois, de Habermas. Et la dernière fois et les dernières fois où je lui ai parlé, il avait l'impression que le projet auquel il était si attaché sur le plan politique et moral, à savoir que l'Europe devienne une Europe sociale-démocrate, eh bien, je crois que cet espoir, il diminuait de plus en plus chez lui. Et je crois que même après sa mort, on voit qu'il avait raison, car nous n'avons pas beaucoup de raisons d'être optimistes quand on pense à l'Europe et quand on regarde les élections qui vont se tenir en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne également, dans tous ces pays. Il y a des mouvements populistes de droite ou des mouvements d'extrême droite et qui eux-mêmes recueillent de plus en plus d'adhésion. Vous disiez que l'Europe, l'Union européenne telle que nous la connaissons, est une Union européenne très néolibérale ou qui l'a été jusqu'à présent et qu'au sein de cette Union européenne, l'Allemagne a toujours été un moteur de cette orientation néolibérale avec cette conviction qu'il fallait miser sur la mondialisation. Et jusqu'à présent, au sein de cette Commission européenne, eh bien, Ursula von der Leyen est très tournée encore vers les États-Unis. Vous enseignez à l'Université Columbia, vous connaissez bien les États-Unis de l'intérieur. Moi, je me pose souvent la question suivante. En France, avec le non au référendum en 2005, il y avait déjà eu là un signal très fort, un signal d'alarme. On voyait que les gens voulaient plus de social en Europe. Et puis ensuite, tout cela était rééquilibré par des élections nationales. Alors, rétrospectivement, est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne a également raté une chance de réagir, de prendre au sérieux ce vote des Français à l'époque? Oui, j'en suis absolument convaincue. À l'époque du gouvernement d'Angela Merkel, l'Allemagne a traversé une période historique assez singulière. La chancelière Merkel avait deux visages. L'un qui était un libéralisme conservateur, mais qui intégrait, ou je dirais un conservatisme progressiste. Elle misait beaucoup sur la politique à l'égard des femmes. Elle avait une certaine sympathie pour le féminisme. Elle était aussi un moteur dans l'ouverture des frontières. Elle a beaucoup fait pour l'ouverture des frontières. Elle a encouragé les Allemands à accepter une politique progressiste en matière de réfugiés et de migration. Et vers l'extérieur et vers l'intérieur, eh bien, elle était toujours en faveur d'une politique d'austérité. Et elle menait une politique d'austérité. Et c'est le gouvernement allemand actuel qui, finalement, supporte les conséquences. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'investissement dans les infrastructures. Les biens publics étaient véritablement réduits au minimum. Vraiment, sa politique économique était extrêmement néolibérale. C'est sous le gouvernement Merkel qu'on a mené cette politique économique néolibérale, car son objectif, c'était vraiment la privatisation des biens et des infrastructures publiques. Je crois que ce qui en est le meilleur symbole aujourd'hui, c'est la Deutsche Bahn, l'échec patent de la Deutsche Bahn, donc des chemins de fer allemands. On paye le prix d'une politique d'austérité qui a été mise en place, initiée il y a 30 ans. Dans plusieurs pays, dont l'Angleterre, à l'époque, on voyait déjà que le Brexit se dessinait à l'horizon. Il y a eu le non au référendum en France et la social-démocratie en Allemagne, en fait, n'en a pas tenu compte. L'Allemagne a toujours été un partenaire très puissant au sein de l'Union européenne. Et à l'époque, on aurait peut-être pu en profiter pour essayer de mener une autre politique économique et sociale à l'échelle européenne. Et ça n'a pas été fait. Et Jürgen Habermas le sentait bien à l'époque. Il avait mis en garde. D'ailleurs, tout ce qu'il disait sur l'Europe contenait justement cette mise en garde contre la néolibéralisation en Europe sous la pression de l'Allemagne. Il n'aimait pas beaucoup Angela Merkel et les gens ne le comprenaient pas parce que Angela Merkel avait un visage sympathique et avenant. Il y avait cette dimension sympathique et avenante. Et dans le mouvement conservateur, elle était une personne assez ouverte. Mais Jürgen Habermas voyait en Merkel un grand danger pour l'Europe, même si elle était très pro-européenne. Mais est-ce que Jürgen Habermas lui reprochait sa politique d'austérité, son attitude à l'égard de la Grèce? Et il disait que cela, en quelque sorte, allait tuer l'esprit même de l'Union européenne. Alors si on essaie de se détacher de ce pessimisme de Jürgen Habermas, que faudrait-il qu'il arrive? Vous parlez de cette amélioration dans le monde du travail, des droits de regard, des droits de codécision. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en la matière pour améliorer les choses? Alors, je vais peut-être vous surprendre. J'ai lu de grands extraits de la dernière encyclique du pape, Humanitas Magnificas, où la doctrine sociale de l'Église est renouvelée. Et pour la première fois, la question de l'intelligence artificielle y est abordée. Et il aborde également la question de la banalisation de la guerre, cette guerre hybride que l'on vit au quotidien et contre laquelle on est déjà quelque peu immunisé. Donc, est-ce que ce n'est pas de cela dont nous avons besoin, d'une doctrine sociale qui, en fait, thématise la question de la révolution morale et de l'intelligence artificielle? Dans cette encyclique, on ne peut que se réjouir de tous les éléments qui a intégré le pape. Je crois que le ton est le bon. Et en fait, cela rejoint une longue tradition qui existe en France et en Allemagne, celle du socialisme catholique, ou alors plutôt une doctrine sociale chrétienne catholique, et qui a une longue tradition en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Et même dans l'entre-deux-guerres en France, avec une orientation particulièrement à gauche, donc ce catholicisme de gauche. Et je dois dire que j'en ai été surpris, mais je trouve que la façon dont le pape aborde cela, c'est tout à fait juste, et il faut lier ça à la question de l'intelligence artificielle. Ce qui est particulièrement frappant dans cette encyclique, c'est l'accent mis sur deux choses très contemporaines, donc cette manière de mener la guerre, également par le biais de l'IA, avec par exemple des drones, et par ailleurs une évolution de l'intelligence artificielle qui est contrôlée particulièrement par des sociétés privées. Je crois que le pape l'a bien compris. En revanche, il y a une chose sur laquelle il n'insiste pas suffisamment, c'est le monde du travail lui-même. Pas seulement l'influence de l'IA sur le monde du travail, mais la précarisation mondiale du travail. C'est un phénomène considérable. Le plus grand choc, lorsqu'il en va du monde du travail, eh bien, on le constate quand on regarde à quoi correspondaient les conditions de travail dans les années 60. Dans tous les pays d'Europe, les travailleurs, les employés étaient très optimistes. Ils voyaient l'avenir avec optimisme. Les salaires augmentaient, il y avait de plus en plus de droits de codécision, les emplois étaient assez garantis, il y avait très peu d'emplois précaires, et d'ailleurs on parlait à peine du salaire minimum. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait des emplois bien rémunérés dans les grands secteurs industriels. Aujourd'hui, 50% des employés travaillent plutôt dans le secteur des services, dans des conditions de travail de plus en plus précaires. Et les gens ne sont plus du tout axés sur l'avenir dans le sens où ils n'ont plus pas d'espoir que les choses s'améliorent à l'avenir. Et c'est cela peut-être qui est le plus inquiétant. À savoir qu'il n'y a plus cet espoir que les choses évoluent pour le mieux dans les années à venir. J'ai plutôt l'impression que les gens ont de plus en plus l'impression qu'ils vont être déclassés, que leur voix ne sera plus entendue, qu'ils seront exclus du processus démocratique. Et je pense que le pape, même s'il a trouvé les bons mots, ne pourra pas échanger grand-chose. Il a un grand pouvoir culturel. Il y a 50, 60 ans, on n'aurait pas pu l'envisager, l'imaginer, que l'Église catholique redevienne une telle puissance morale, alors que c'est le cas, elle devient de nouveau actuellement. Mais pour autant, ça ne va pas ramener l'espoir.